Des réunions qui s'enchaînent pour le ministre des Outre-mer. Ce dimanche, Manuel Valls s'est notamment entretenu avec les maires de Nouvelle-Calédonie. Plusieurs sujets à l'ordre du jour comme l'évolution des compétences des communes. La deuxième journée du déplacement du ministre se poursuit ce dimanche. En parallèle des discussions, il a notamment visité ce matin le marché de Nouméa. Ce soir, il se rendra en Lansvata puis à l'université. Dans le reste de l'actualité, un homme recherché à la fois. Il avait été interpellé mais s'est enfui, menotté de la gendarmerie. Un dispositif des forces de l'ordre a été déployé. L'actualité dans le monde, les recherches se poursuivent en Birmanie et en Thaïlande pour tenter de retrouver d'éventuels survivants après le séisme meurtrier survenu hier. Dans le Pacifique, des inondations en Australie, dans l'état du Queensland, l'armée a été appelée en renfort pour aider la population. Le sport du football, Antoine Comboiré et les Nantais vont défier le Havre, un duel de mal classé et un pas important vers le maintien qui pourrait être réalisé en cas de victoire ce soir. Le foot côté calédonien, Tigasport gagne son premier match des phases de poule de la O-League. Un succès sur les Fidjiens du Rewa FC, 4-2. Bonsoir et soyez les bienvenus dans Info Weekend pour tous savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. À la une, la deuxième journée de négociations sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie entre le ministre des Outre-mer et les délégations calédoniennes. Depuis hier, Manuel Valls multiplie les réunions et les entretiens sous différents formats au Haut-Commissariat. Dès la première journée de son déplacement, il a exposé son objectif, faire un pas décisif vers un compromis global. Global à l'issue de ce séjour. Le ministre a repris aujourd'hui le cycle des négociations, d'abord de 10h à 10h45 en séance plénière et depuis 14h en format bilatéral. Très peu d'éléments ont filtré de ces discussions, mais on sait que le ministre des Outre-mer a remis un nouveau document aux différentes délégations. C'est ce qu'a annoncé Pascal Vittori, le président de l'Association française des maires.
Le ministre a pris des initiatives, c'est ce que tous les groupes politiques attendaient, puisque les groupes politiques avaient donné donc leurs intentions et leurs limites. Tout le monde attendait que l'État prenne des initiatives. C'est ce que le ministre a fait ce matin en remettant un document à tout le monde, à toutes les personnes autour de la table, qui est un projet d'accord que sont en train d'examiner toutes les délégations. Et on doit se revoir dans l'après-midi pour des bilatérales, que chaque délégation politique puisse donner son avis sur ce projet. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde parle de négociations. Plus personne ne parle de discussion autour de la table, c'est clair, on parle de négociations. Je suis optimiste dans la mesure où tout le monde est encore autour de la table, tout le monde joue le jeu, et donc c'est plutôt positif. Je pense que le ministre a essayé de satisfaire tout le monde. Après, c'est toujours difficile, il y a des points de friction. C'est là que vont intervenir les négociations. Je pense qu'avec de la bonne volonté, un compromis est possible.
Pascal Vittori, le président de l'Association française des maires qui participe aux négociations au sein de la délégation Rassemblement. Les négociations en bilatéral sont encore en cours actuellement. Elles se poursuivront demain avec les différentes délégations à partir de 10h30, puis l'après-midi dès 14h30. Manuel Valls avait annoncé une dernière séance plénière conclusive pour mardi. En parallèle, le ministre des Outre-mer avait convié ce midi les maires de Nouvelle-Calédonie pour un déjeuner de travail en marge des négociations sur l'avenir institutionnel, Léo Fichot.
Une rencontre qui aura duré près d'une heure pour évoquer les nombreux problèmes que rencontrent les communes ainsi que les premières mesures d'ordre économique pour leur venir en aide. Un entretien constructif, selon Florentin Dedane, le président de l'Association des maires de Nouvelle-Calédonie à dominante indépendantiste.
Il a fait part des dernières nouvelles que l'État il a débloqué concernant les collectivités, surtout du Grand Nouméa, qui concerne les 200 millions d'euros. Et puis aussi des annonces concernant la DGF, dotation globale de fonctionnement, où on a eu l'arrêté cette semaine au niveau du Oursaria, et aussi concernant la DETR, les subventions d'investissement. Et puis en même temps pour le Fonds communal de développement, donc ils ont eu les arrêtés aujourd'hui, pour essayer de relancer un peu l'économie. Et on a aussi demandé, donc ça c'est une nouvelle demande, donc par rapport aux différents maires qui étaient là, donc par rapport à l'enveloppe qui est dédiée aux communes de l'agglo concernant la reconstruction, donc certains maires ont demandé, ça avait arrivé le cas, de penser aussi aux autres communes, même si on n'est pas touché directement par les dégradations, mais il y a des sujets qui sont là, qui peuvent prévenir, on va dire, concernant les caméras de surveillance, l'éclairage public, pour prévenir aussi là, enfin éviter qu'il y ait des dégradations qui peuvent survenir dans les communes de l'intérieur ou des îles. Donc il nous a dit que nous aussi, les maires, on sera indispensables aussi à la discussion pour regarder par rapport aux compétences des communes dans le futur statut. Est-ce qu'on récupère des compétences ou est-ce que par rapport à ce qu'on a, comment on peut améliorer pour être plus efficace pour la population ?
Un ministre qui a prêté une oreille attentive aux doléances des maires, c'est ce que retient également Pascal Vittori, le président de l'Association française des maires de Nouvelle-Calédonie.
D'abord, une très grande écoute pour les maires. C'est la deuxième fois qu'Emmanuel Valls reçoit l'ensemble des maires de Nouvelle-Calédonie. Puis surtout, il donne la parole aux maires et il attend des retours sur ce qui se passe dans les communes, ce qui se passe sur le terrain. On a parlé finances, bien sûr, hein, puisque c'est toujours un sujet pour les communes, à la fois de la reconstruction et puis des difficultés des communes à fonctionner et à emprunter. Mais on a aussi parlé des problèmes de scolarité. On a parlé également sécurité, puisqu'il y a de nombreux problèmes de sécurité qui continuent à se poser. On a parlé santé et sociale, puisqu'on manque de personnel médicaux. Et là, l'État envisage, au travers d'une convention avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, d'apporter une aide, aussi bien pour envoyer des personnels que pour former des personnels locaux. On a parlé mines également, puisque c'est un sujet pour les communes minières, mais pas seulement. Voilà, de nombreux sujets qui concernent bien sûr les communes de Nouvelle-Calédonie, mais plus globalement les Calédoniens.
Et l'Association française des maires a remis au ministre des propositions pour augmenter les compétences et le financement des communes calédoniennes. Les deux associations de maires doivent aussi se retrouver prochainement pour déterminer quels sujets elles pourront porter ensemble devant le ministre des Outre-mer.
Dans ce séjour dominé par les négociations sur l'avenir institutionnel, Manuel Valls a souhaité se rendre ce matin au marché municipal de Nouméa. Une séquence sur le terrain, à la rencontre de la population, en compagnie notamment du maire Sonia Lagarde. Ce déplacement lui aura permis de prendre le temps de parler avec de nombreux Nouméens. On écoute le ministre des Outre-mer.
C'est important avec Sonia Lagarde, la maire de Nouméa. D'abord, moi j'aime bien les marchés. Et c'est là où on sent le pouls d'une ville et d'une société. Je ne vais pas avoir la prétention de tout comprendre à travers ce type de déambulation, de visite. Enfin, ça permet de voir d'abord question de pouvoir d'achat, comment vont les commerces, quels sont les problèmes qui se posent, et de parler avec les gens. C'est dimanche matin, ils font le marché, donc ils sont disponibles pour vous dire ce qu'ils pensent et exprimer leurs préoccupations et l'envie de reconstruction quand même, parce que les dégâts sont là, les fractures existent dans la société. Voilà, c'est une manière pour dire que je suis aussi à l'écoute, symboliquement et concrètement, des Calédoniens, quelle que soit leur origine, et leur dire que... Il faut construire ensemble.
Manuel Valls a discuté de différents sujets, principalement ceux qui touchent au quotidien de la population. Écoutez les réactions de ses clients et exposants du marché qui ont pu le rencontrer.
Léno, vous êtes de Nouméa ?
Je suis
d'ici. Bon, c'est sympa de voir les gens là, quand même, tranquilles. Ça donne une autre image, que c'est la vraie image de la Calédonie.
C'est exactement ça. Voilà. C'était une surprise, ben, voilà. Mais bon, contente. Je lui ai juste dit que... Ben merci pour ce qu'il fait pour le pays d'arranger les choses, quoi.
On l'a interpellé parce qu'on est quand même les utilisateurs du marché. On tenait à lui faire un petit cadeau, un bijou symbolique.
J'ai dit juste bonjour Monsieur Valls, parce que j'étais un peu émotionné.
Je voudrais qu'il réussisse à mettre tout le monde d'accord pour qu'on puisse sortir du marasme. C'est le pays qu'il faut, ce sont les gens qui connaissent, ce sont les gens, les pauvres gens comme tout le monde là, qui souffrent.
Et à cette occasion, Manuel Valls s'est également exprimé sur le début des négociations menées depuis hier au commissariat et sur la nécessité de faire avancer les travaux.
C'est l'appel à la responsabilité et au principe de conséquence. Tout le monde pense qu'il faut un accord, parce que sans accord, la Nouvelle-Calédonie se perdra, sans investissement, sans avenir, avec les préparations d'élections provinciales dans les pires conditions et une crise de confiance importante. Donc il faut trouver une voie commune. C'est difficile, je le sais bien. Les positions sont lointaines les unes des autres et puis il y a eu les événements du 13 mai. Mais je crois qu'il n'y a pas d'autre choix que de trouver un accord et l'État, en tout cas le gouvernement par ma présence, cherche à faire en sorte qu'on puisse avancer sur des bases qui soient les meilleures. Il faut que tout le monde pense à la Calédonie et aux Calédoniens. En son lien avec la France bien évidemment, au redressement de l'économie, l'État apporte, soutient, assure aussi la sécurité. Mais le destin ici, c'est aux Calédoniens de le prendre en main. Donc on va essayer de travailler au cours de ces journées de manière la plus concrète, que tout le monde reste autour de la table, s'écoute et on essaie de construire un accord. Ça ne sera pas facile, je le sais. Et si c'est nécessaire, je reviendrai autant que nécessaire. Mais je souhaite que d'ici à mardi, on aboutisse à une base.
Et sur le marché municipal, le ministre des Outre-mer a également pris un café en compagnie du maire de Nouméa. Sonia Lagarde était heureuse de proposer cette visite à Manuel Valls.
Extrêmement convivial. Il avait envie de, de prendre un bain de foule. Donc le marché était un endroit tout indiqué. Ça lui a permis de discuter avec des gens. Et puis, vous savez, le destin commun dont on parle tant, il se joue ici. Toutes les ethnies sont là, les gens prennent le café, viennent faire les courses. Et donc le marché est extrêmement convivial et je crois qu'il est reparti sur une note positive en se disant c'est plus facile ici qu'ailleurs peut-être. Voilà. Les gens étaient ravis de pouvoir lui dire bonjour et ce qui ressort en gros, c'est que les gens aspirent tous à la paix et ils aspirent surtout à ce qu'on trouve le chemin du vivre ensemble et le chemin de la paix tous ensemble. Quoi. Moi j'ai entendu personne aujourd'hui lui dire autre chose que ça. Je crois qu'il est parti d'ici avec enthousiasme en se disant mais finalement tout le monde cohabite ici. Il n'y a pas de problème. Eh bien si, on en a des problèmes et il faut les régler.
Des propos recueillis par Kélinda Boicou. Cette visite de Manuel Valls au marché municipal de Nouméa aura duré plus d'une heure. Et ce soir, à 19h, Manuel Valls se rendra cette fois à Lansvata pour une déambulation et une rencontre avec la population. À 20h, il rencontrera à l'Université de la Nouvelle-Calédonie les représentants de la société civile. Demain matin, pour l'avant-dernière journée de son séjour, le ministre des Outre-mer se rendra dès 8h au lycée La Pérouse pour échanger avec les professeurs, les équipes pédagogiques et les élèves de l'établissement. Toujours sur le sujet des discussions sur l'avenir institutionnel, un rendez-vous d'antenne à la fin de ce journal. Ne manquez pas la rediffusion du magazine Transparence. C'est Jean-Pierre Jaoué, le chef de la délégation Unie dans les discussions sur l'avenir institutionnel et chef du groupe Unie au Congrès qui était vendredi midi l'invité d'Elisabeth Noir. Une émission à retrouver également en podcast, audio et vidéo sur notre site internet. Dans le reste de l'actualité, au chapitre des faits divers, un homme est activement recherché à La Foyle et au Fichaud.
Ce dimanche, l'homme d'une vingtaine d'années s'est évadé menotté de la gendarmerie de La Foyle alors qu'il avait été interpellé la veille à Canala par les forces de l'ordre. De nombreux moyens ont été engagés pour le retrouver, pas moins de 25 gendarmes, dont un maître chien. Pour recontextualiser, l'homme participait ce samedi, hier donc, à une fête sur Canala, une fête qui a dégénéré. Les gendarmes sont intervenus, ont subi des jets de pierre. C'est là qu'ils ont procédé à 5 interpellations. Après plusieurs heures de garde à vue, l'un d'entre eux, qui ne serait pas dangereux selon les forces de l'ordre, a réussi à échapper à la surveillance des gendarmes et à s'enfuir de la gendarmerie. Les forces de l'ordre lancent donc un appel à témoins. Si vous avez la moindre information sur cet évadé à La Foyle, un homme d'une vingtaine d'années menotté et qui porte un t-shirt bleu, vous pouvez contacter la gendarmerie de La Foyle directement au 44 87 50. Le 44 87 50.
RRB 17h58.
Le début de la semaine qui commence demain sera dominé, on l'a vu, par la suite du déplacement de Manuel Valls qui repart mardi soir. Mais il y a d'autres rendez-vous à signaler dans les jours à venir, Léo.
Et d'abord le lancement ce lundi de la semaine olympique et paralympique 2025 avec le CTOS, le groupement d'employeurs sport et loisirs sud et l'UCEP. Des opérations seront organisées notamment dans des établissements scolaires au Mont d'Or, à Païta, à Yaté, à La Foyle ou encore à Thiot. C'est aussi ce lundi le lancement de la 5e édition de la Semaine du numérique avec des actions menées par le gouvernement, l'Université de la Nouvelle-Calédonie aussi, mais également le vice-rectorat et le cluster OpenNC. Jeudi, la Journée mondiale du Rhin sera relayée sur la commune de Bouraille pour sensibiliser la population aux maladies rénales. Vendredi, la Société protectrice des animaux lancera pour tout le week-end son opération de collecte de croquettes. Dimanche prochain, comme tous les premiers dimanches du mois, ce sera le jour du vide-grenier de la ville de Nouméa sur la place des Cocotiers. Enfin, le week-end prochain sera également marqué par la réouverture de la chasse aux roussettes et aux notous en province nord et en province sud. Mais comme le veut la réglementation, cette chasse est ouverte uniquement les week-ends du mois d'avril à raison de 5 roussettes et 5 notous par jour et par chasseur.
Un rendez-vous sur notre antenne. Où en est la préparation du prochain recensement préparé par l'ISEE ? Quelle formation reçoivent les agents recenseurs ? Jean-Philippe Groutier, chargé de mission recensement à l'ISEE, sera demain matin notre invité à 7h30. Une dernière information pratique, c'est aujourd'hui que la métropole est passée à l'heure d'été. Le changement s'est fait à midi pour nous. Il était 2h du matin, heure de Paris. Les horloges de la métropole ont donc avancé d'une heure. Conséquence, le décalage horaire est désormais de plus 9h. Cela a peu de répercussions pour nous, mais pensez-y dans vos contacts téléphoniques avec la métropole. Et ce décalage horaire provoque également de légères modifications sur notre antenne avec un petit décalage dans la diffusion de certains rendez-vous d'informations. d'information d'Europe 1. Il est 18h, l'actualité nationale est dans le monde justement. On en parle juste après une courte pause publicitaire.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixon à Magenta à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Jusqu'au vendredi 4 avril, Tradition Thaïlande vous invite à jouer pour tenter de gagner une carte VIP pour vous offrir des heures de bien-être et de détente. Un cadeau exceptionnel d'une valeur de 150 000 francs. Pour participer, c'est simple, envoyez « chance » au 4020 dès maintenant. Plongez dans l'authenticité thaïlandaise au Faubourg Blanchot avec une sélection de 16 massages allant de 20 minutes à 2h30. Un moment unique de détente vous attend chez Tradition Thaïlande. Réservation en ligne, bon cadeau. Tradition Thaïlande vous accueille au 11 route du Port des Pointes et sur Facebook. Téléphone 43 04 20. Alors pour tenter de gagner des heures de bien-être, envoyez « chance » au 4020. Tirage au sort le vendredi 4 avril à 14h. 371 francs par SMS sur Radio Rythme Bleu, il n'y a pas de jour sans jeu.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Et la suite du journal avec vous, Mickaël Juneski.
À l'actualité nationale, nous sommes à un jour d'un jugement très attendu, celui qui concerne Marine Le Pen dans le procès dit des assistants parlementaires. Aujourd'hui, l'ex-patronne du Rassemblement National s'exprime dans la presse. Elle ne veut pas croire au scénario du pire et notamment à une peine d'inéligibilité. Le point avec Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1.
C'est un scénario auquel personne au Rassemblement National n'ose vraiment croire, pas même Marine Le Pen qui affichait sa sérénité cette semaine. Dans le Figaro, je me considère totalement innocente des faits qui me sont reprochés, affirme la triple candidate à la présidentielle, qui refuse par principe d'anticiper la décision des juges. Au sein du parti, la question de l'exécution provisoire est d'ailleurs taboue, si bien qu'à ce stade, rien n'a été réellement préparé si cette hypothèse venait à se réaliser. Ni élément de langage, ni plan B, comme si les troupes de Marine Le Pen refusaient d'imaginer ce qui serait alors vu au RN comme un coup de force démocratique. Même Jordan Bardella, perçu comme son héritier politique légitime, en cas d'empêchement, rejette ce scénario. Par loyauté ou par excès de modestie, le président du RN refuse de se présenter comme une alternative à Marine Le Pen. Dans l'entourage de la principale prévenue, chacun apparaît donc suspendu à la décision des juges, avec une forme d'impuissance et l'espoir que les juges renonceront à prononcer sa mort politique.
Alexandre Chauveau pour Europe 1. Et selon un sondage IFOP pour le journal du dimanche, si la présidentielle avait lieu aujourd'hui, la chef de file des députés RN réaliserait un score de 37% des suffrages dès le premier tour, soit 10 points de plus que lors du premier tour de 2022. Un rendez-vous d'antenne. Cette semaine, l'invité du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos sera Jérôme Guedje, député FPS de l'Essonne. Une émission que vous pourrez retrouver sur l'antenne d'RRB demain soir. Ce sera juste après Info Soir, votre grand journal de 17h45. L'actualité dans le monde, marquée par le tremblement de terre survenu hier en Asie du Sud-Est. Plus de 1600 personnes ont perdu la vie en Birmanie. 17 victimes sont également à déplorer en Thaïlande. Plusieurs pays, dont la Chine, ont déjà envoyé des équipes spécialisées pour tenter de retrouver les survivants sous les gravats. Un processus délicat qui demande des compétences et du matériel très précis. Comme l'explique Patrick Colombel, il est cofondateur des architectes de l'urgence.
Il faut à la fois des engins de levage, des engins d'étaiement et puis des engins pour faire du percement. C'est des outillages quasi de bâtiment pour pouvoir faire du sauvetage d'éblaiement. Donc ça demande des personnels qui aient la compétence technique pour pouvoir intervenir sur ce type de site avec des formations spécifiques. Il y en a dans plein de pays. Ce sont des gens qui sont spécifiquement formés pour intervenir dans ce genre de catastrophe.
Une opération d'autant plus complexe que les routes fortement endommagées par les secousses ne facilitent pas l'accès aux sauveteurs. Le pouvoir birman a lancé un appel à l'aide internationale pour pallier au manque de moyens humains et financiers du pays plongé dans la guerre civile depuis 4 ans. Les États-Unis, par la voix de Donald Trump, ont déjà confirmé qu'ils apporteraient leur soutien dans les prochaines heures. L'actualité dans la région Pacifique. En Australie, l'armée a été appelée à intervenir dans l'ouest et dans le centre du Queensland où de très graves inondations sont signalées. La conséquence prévisible de plusieurs semaines de pluies incessantes. C'est la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Certaines stations météo de l'intérieur du Queensland ont enregistré jusqu'à 115 mm de pluie en 2 heures hier matin. Le déluge a été tel que les petits hélicoptères habituellement utilisés pour regrouper le bétail ont sauvé des dizaines de personnes qui s'étaient réfugiées sur le toit de leur maison. Plusieurs villages et stations d'élevage ont été engloutis et les pertes au niveau du cheptel bovin et ovin risquent de se compter par millions. Ces pertes sont horribles, a admis le premier ministre du Queensland, David Crisafulli, lequel a ajouté que des millions d'hectares de culture et pâturage sont sous les eaux. Le réseau routier du centre et de l'ouest de l'État est quasiment impraticable à cause des crues et des centres d'hébergement ont été ouverts un peu partout. Face à la gravité de la situation, l'armée a été appelée à intervenir. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
À 18h passées de 6 minutes, restez avec nous après une dernière page de publicité. Nous verrons toute l'actu sport.
Accueil détendu, équipe dynamique, toujours un sourire au Bilboquet Plage.
En tête à tête ou avec des amis, toujours de la place au Bilboquet Plage.
De la simple salade au saumon fumé, toujours un grand choix au Bilboquet Plage.
Du soleil de midi aux 12 coups de minuit, toujours nous servons au Bilboquet Plage.
Au Palm Beach à Lonsvata, face aux îlots, Bilboquet Plage, un plus pour le week-end. Voilà.
8 musiciens du territoire bourrés de talent ont décidé de rendre hommage à l'un des plus grands guitaristes de tous les temps, Carlos Santana. Un mélange unique de rock, de blues, de rythmo latino, avec des titres comme Black Magic Woman, Oye Como Va ou encore Europa. Bref, une soirée inoubliable vous attend vendredi 4 au On The Beach. Vous pouvez réserver sur ticket.nc 2600 francs pré-vente ou 3000 francs sur place. Ouverture des portes à 18h, début du concert à 19h30. Tribute de Carlos Santana, le concert vendredi 4 au On The Beach.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonceslegales@rrb.nc ou au 25 46 46. Tout le sport en trois lettres, RRB.
La suite du journal et tout le sport, Mickaël Juneski.
Et à la une de l'actu sport du football, la suite et la fin de la 27e journée de Ligue 1 ce soir et demain matin, Léo Fichot.
5 rencontres au programme avec dès minuit Toulouse-Brest, puis 3 matchs en multiplex à 2h15, Angers-Rennes, Auxerre-Montpellier et les Nantais d'Antoine Comboiré sur la pelouse du Havre. Je vous propose d'écouter le coach des Canaries.
Le Havre, dans leur tête, ils se trottent l'idée donc, de nous battre et puis de se rapprocher de nous et de n'être qu'à 3 points. Donc. Aujourd'hui, on sait qu'on a 6 points. Il faut travailler fort pour accroître cet écart. Voilà. Et c'est dans cet esprit qu'on va donc jouer ce match contre le Havre. Par contre, on n'est pas en train d'anticiper en disant « Ouais, si tu gagnes, il faut jouer le match, il faut le jouer ».
Et enfin, en clôture de cette 27e journée, le derby du Nord entre Lille et Lens, ce sera demain matin à 5h45. Je rappelle que le Paris Saint-Germain n'est pas passé loin d'être sacré champion de France pour la 13e fois de son histoire après avoir écrasé Saint-Etienne 6-1. Mais Monaco l'en a privé en battant Nice 2-1 dans le derby de la Côte d'Azur. De son côté, Marseille s'est incliné 3-1 contre Reims.
On passe du football au rugby avec tout d'abord la 20e journée de Top 14.
Le Stade toulousain n'a laissé aucune chance à la section paloise, victoire 55-10. Victoire aussi de Clermont sur La Rochelle, 33-19, de l'Aviron Bayonnais sur Lyon, 28-14, de Montpellier sur le Stade français, 38-32. Et enfin, victoire également de Castres sur Toulon, 28-26. Entre Vannes et Perpignan, il n'y a pas eu de gagnant, match nul 20 partout. Demain matin à 6h05, le Racing 92 recevra l'Union Bordeaux-Bègles.
Rugby toujours mais au féminin, cette fois avec la deuxième victoire de l'équipe de France dans le tournoi Destination.
Après avoir battu l'Irlande la semaine dernière, les Françaises ont battu cette fois l'Écosse 38-15. Les Bleus qui restent tout de même deuxième du classement puisqu'elles n'ont pas réussi à s'imposer avec le bonus offensif. Les Anglaises de leur côté ont étrié les Galloises 67-12. Le prochain match des Tricolores ce sera face aux Galloises dans 2 semaines, mais en attendant la nuit prochaine, l'Italie recevra l'Irlande.
Pour être complet sur l'actu du ballon ovale, un mot de rugby à 7.
Les équipes de France étaient ce week-end et sont toujours ce week-end d'ailleurs à Hong Kong pour la 5e des 6 étapes du HSBC Sevens. Les hommes sont temps final. Ils se sont qualifiés en battant les Fidji 24 à 17. Ils seront opposés à l'Argentine ce soir à 21h46. En revanche, pas de finale pour les dames qui ont perdu en demi face à l'Australie 28 à 5. Elles affronteront le Canada à 20h10 pour la troisième place.
Les sports mécaniques, le Grand Prix des Amériques de MotoGP.
Et les frères Marquez qui sont décidément intouchables. Marc Marquez n'a laissé que des miettes à ses adversaires. Il s'est imposé sur la sprint race devant son frère Alex et son coéquipier chez Ducati, l'italien Francesco Bagnaia. Côté français, une belle course pour Fabio Quartararo qui a terminé 6e, Juan Zarco lui 16e. Le Grand Prix des Amériques de MotoGP sera à suivre demain à partir de 6h. Pour nous, c'est sur le circuit d'Austin au Texas.
Et en tennis, c'est un week-end de finale au Masters 1000 de Miami.
Chez les féminines, d'abord le duel entre la Biélorusse Arina Sabalenka et l'Américaine Jessica Pegula a tourné à l'avantage de la tête de série numéro 1, Arina Sabalenka, qui l'a remporté en 2-7, 7-5, 6-2. Dans le tableau, messieurs, la finale se jouera demain matin. Le Serbe Novak Djokovic tentera de gagner son 100e titre sur le circuit mondial. Ce sera face au Tchèque Jakub Mencic, 54e au classement ATP.
Radio Rythme Bleu, les bonnes fréquences. Allez fou, c'est le 102.5.
Le sport côté calédonien du football dans la région avec Tigasport qui a réussi son entrée en lice en Haut-Ligue, Léo Fichou.
Les représentants de la Nouvelle-Calédonie en Ligue des Champions d'Océanie ont battu les Fidjiens du Rewa FC 4 buts à 2 grâce à notamment un but sur pénalty de Mickaël Partodi-Cromo en début de rencontre. On écoute le milieu de terrain.
Merci mon pays. Voilà, avec tout ce qu'on a traversé, même s'il n'y a pas eu de championnat, on n'a pas d'excuses, on donnera tout. Merci de nous supporter, on donnera tout pour vous.
Et prochain rendez-vous pour les joueurs de Léo Lopez, ce sera mercredi à 15h. Ils auront fort à faire contre les Néo-Zélandais d'Auckland City.
Le sport sur le territoire maintenant de la voile au féminin avec un événement qui était organisé tout le week-end par le CNC.
Une quarantaine de participants qui étaient donc au rendez-vous de 100% skippeuses. Les équipages s'affrontaient depuis hier sur une série de régates avec des navigatrices embarquées sur chaque navire.
Franchement, on est hyper contents. C'est bien de promouvoir les femmes à la barre. C'est cool de naviguer aussi avec des hommes. C'est pas un événement 100% féminin. Donc ça permet de trouver un équilibre sur le bateau entre hommes et femmes, en sachant que du coup, c'est quand même les femmes qui lead. Qu'on a fait des belles pointes de vitesse sous spi à 16 nœuds 6. Et c'était trop kiffant de surfer dans les vagues, c'est vraiment trop bien. Ça se passe super bien, c'est très chouette d'avoir fait cet événement-là, où, très mixte, et avec des femmes à la barre. Donc non, c'est très chouette, ça change un peu de tout ce qu'on voit. Moi, je fais de la régate depuis l'âge de 8 ans, ça fait quelques années. Quand je peux, je fais encore des régates, mais beaucoup moins qu'à l'époque.
Nous, on régate sur des croiseurs avec Maluco. Donc on régate tous les mercredis. Là, faut pas hésiter. Franchement, c'est que des bons moments.
Très contente de participer à cet événement et j'espère qu'il y en aura d'autres. Faire des connaissances et vraiment être sur l'eau pour prendre du plaisir, ça c'est cool.
On a choisi notre petite tenue Barbie parce que c'est 100% skippeuse, donc c'est trois femmes et deux gars, mais nous on est cinq.
On est ça,
voilà, cinq femmes, nous. Donc on les a déguisées en Barbie. Mais ils jouent bien le jeu, ils sont top. Vraiment, vraiment sympathiques. Et puis voilà, on apprend surtout et on passe un bon moment.
Et à la fin, c'est l'équipage Marine Canaille qui s'est imposé avec un peu moins de 2 minutes d'avance sur Guilty Fox.
Allez, on prend la direction de Bouraï. Yannès Sadiou pour parler VTT.
Un franc succès pour cette course organisée par le CSB, comité sportif de Bouraï, sur le site de l'Auberge du Pêcheur. Plus de 30 coureurs, dont de nombreux jeunes, étaient au départ. Écoutez Véronique Biche, secrétaire de la section cyclisme du CSB.
Le parcours est assez exigeant, les gens sont très satisfaits de leur course globalement, même s'ils ont trouvé ça très, très exigeant. Avec un temps pas trop ensoleillé, mais une chaleur qui est assez importante, donc exigence à la fois du tracé, exigence en termes de d'hydratation pour les coureurs, mais une très bonne ambiance sur le site et des gens très satisfaits.
Et c'est Guillaume Dréau qui s'est imposé chez les hommes. Chez les dames, victoire de Jessica Bélanguez. Du côté des jeunes, Ethan Dacromont a gagné chez les U17. Et chez les U15, c'est Amorillo qui s'est imposé.
Allez, encore quelques résultats en bref, Léo Fichou.
Oui, le triathlon Jérémy Brouté de Bourraqué. C'est Mathieu Zalamacha, qui est arrivé en tête devant Florian Barquette et Jonathan Berger. Chez les dames, victoire de Charlotte Robin. Il y avait du surf aussi à Bouraille avec la compétition de shortboard qui lançait ce dimanche la saison en Open. Victoire 10 Isaac Coste devant Riwan Lepietek et Kurt Pascal. Chez les espoirs, c'est Thibaut Bezer qui s'est imposé devant Wayne Coste et William Meyer. Et enfin, du tennis de table avec la coupe d'ouverture du comité provincial sud. 64 participants et c'est Jérémy Day qui s'est imposé en finale sur Jérôme Morisseau. Olivier Clouet complète le podium. Maëlys Giré termine 5e, c'est la première féminine.
Il est 18h passé de 14 minutes, on termine ce journal avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Les détails de cette météo 7 avec vous, Maxime, bonsoir.
Bonsoir pour votre bulletin cette nuit. Bien, le temps sera maussade. Sur le sud-est, les averses risqueront d'être localement fortes. Ailleurs, les pluies ou averses seront généralement faibles et intermittentes. Mais sur le nord-ouest et la pointe nord, elles pourront être localement plus marquées. Sur l'ouest, en fin de nuit, sur le nord-est, le vent deviendra variable faible, mais des accélérations se produiront également dans les vallées exposées. Ailleurs, le vent de secteur nord-est soufflera de 10 à 15 nœuds et localement entre 15 à 20 nœuds vers la pointe sud et l'île des Pins. Les températures minimales ce soir seront comprises entre 22 et 25 degrés. Demain matin, le ciel sera couvert. Sur le sud-est, de fortes précipitations seront encore possibles. Sur les autres régions, les pluies resteront intermittentes et souvent assez faibles. Mais par endroits, une averse modérée n'est pas exclue. Sur Marais, la pointe sud et l'île des Pins, le vent de secteur nord-est soufflera entre 15 et 20 nœuds. Ailleurs, il variera, par contre, entre 5 et 10 nœuds de nord à nord-ouest.
Merci beaucoup, Maxime, pour la météo et la technique. C'est la fin de ce journal.